RFJ Info. Thomas Nagy.
Bonsoir, le rideau est tombé sur la 7e édition de Delémont BD. La fête se tenait depuis vendredi soir dans la cour du château et en vieille ville de Delémont. Pour faire le bilan de cette édition, Philippe Duvanel, directeur artistique de Delémont BD, est notre invité. L'équipe de Suisse transpire en ce moment même. Elle affronte la Turquie dans le dernier match de poule de l'Euro 2020. La victoire est obligatoire. Retour sur les enjeux de ce match dans notre journal de l'Euro. Le ciel sera agité ce soir et cette nuit. Des orages sont attendus dans la région durant la soirée. Ils pourraient être violents avec de la grêle et de la pluie. Le reste de la semaine sera également pluvieux et le mercure perdra quelques degrés au fil des jours. Delémont BD a retrouvé ses couleurs ce week-end. La 7e édition du festival a accueilli auteurs, autrices, visiteurs et visiteuses depuis vendredi soir. Après une année 2020 marquée par la pandémie, la manifestation a pu en partie renouer avec sa formule habituelle. Et pour en parler et faire le bilan, nous recevons le directeur artistique de Delémont BD, Philippe Duvanel. Bonsoir.
Bonsoir.
La fête de retour après une année 2020 compliquée, comment est-ce que vous avez vécu cette 7e édition ?
Avec bonheur, c'est un bienfait de pouvoir revivre du vivant et de la rencontre, puisque c'est l'essence du festival de Delémont BD, c'est le principe de rencontrer, de confronter, d'échanger en vivant.
Alors la fête, elle a été malgré tout un petit peu court-circuitée cet après-midi à cause notamment d'une alerte orageuse. Vous avez dû tout plier dès 15h, c'était un crève-cœur ?
Un gros crève-cœur parce que c'était le festival battait son plein, mais enfin, je crois qu'il fallait être prudent et raisonnable, voire pragmatique.
Pas de regret ?
Oui, un peu, parce que là, tout d'un coup, le soleil brille, mais enfin, voilà, je crois qu'on a vécu quand même l'essence, c'était important. C'était assez magique hier, on a eu une soirée d'ouverture extraordinaire dans le jardin du château, et puis surtout une belle affluence sur le festival.
Alors, il y a une formule inédite hors des murs entre la cour du château et l'exposition des jardins. Ça a bien fonctionné cette année, ça ?
Très bien fonctionné, en fait, d'avoir sorti l'ensemble de nos expositions, pratiquement l'ensemble de nos expositions à l'extérieur a bien fonctionné. Ça offre une énorme liberté aux visiteurs et visiteuses. Ils peuvent venir quand ils veulent, ils peuvent revenir, ils ne sont pas obligés de tout regarder sous l'œil attentif d'un gardien ou d'une gardienne. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et puis tout d'un coup, c'était comme faire repousser la liberté au sein de la vieille ville de Delémont.
Repousser la liberté dans les jardins, finalement, c'est ça ?
Exactement, sans le masque en plus.
Il y a eu en 2019 environ 16 000 spectateurs. 2020 ne compte pas vraiment puisque l'édition était particulière. Ce week-end, à peu près 6 000 personnes. Comment vous considérez ce chiffre ?
Je m'en réjouis, peu importe la quantité. Je crois que la qualité était importante pour nous. C'était la qualité de pouvoir se retrouver.
Une formule cette année qui renoue avec les éditions qu'on a connues de Delémont BD, mais il y avait quand même encore un peu quelques restrictions sanitaires, le masque notamment, la limitation aussi de l'affluence à la librairie par exemple. Oui. Vous avez l'impression que ça a un petit peu gâché la fête ou pas ?
Non, ça l'a peut-être un peu contrainte, mais je crois pas. En fait, on a eu beaucoup de liberté dans la cour du château, dans tout ce qui était extérieur, on a pu gagner un peu plus de liberté. Puis je crois qu'il faut être patient, tout simplement, bêtement, se réjouir qu'on ait pu se rassembler et peut-être vibrer ensemble.
Alors la fête, elle a pu avoir lieu, on l'a dit, mais le suspense, il a quand même duré jusqu'à quelques jours avant le début des festivités. Vous aviez combien de plans B ?
Pas beaucoup, mais en fait, oui, non, on a dû se dépêcher. Non, c'était le plan B, c'était vraiment d'avoir fait ce projet qui s'appelle Les Jardins Merveilleux, qui est prolongé jusqu'au 11 juillet, donc d'organiser l'exposition à l'extérieur. Et puis la fête, c'était plus ou moins la cerise sur le gâteau. On l'a eu contre toute attente.
Une édition donc 2021 qui renoue plus ou moins avec la forme traditionnelle du festival. Vous avez déjà 2022 en ligne de mire ?
Clairement. Clairement, et puis je pense que la pandémie était une contrainte extrêmement intéressante au niveau créatif, puisqu'on a vraiment proposé un parcours musical dans la vieille ville de Delémont. Je crois que cette formule-là, on a très envie de la reprendre l'année prochaine. Apporter de la liberté, et peut-être que finalement ça va au-delà de la pandémie, offrir la liberté de visite et d'accès à nos expositions.
Vous avez déjà une idée de la forme que ça pourrait prendre ?
La vieille ville est très inspirante, donc effectivement, moi j'ai déjà en tête pas mal d'emplacements que j'aimerais utiliser. Et puis,
par exemple ?
Les jardins du château qu'on a inaugurés cette année, on va les reprendre. Et il y a des recoins assez incroyables que même les Delémontains et Delémontaines ne connaissent pas, qu'on a envie d'investir.
Le Grand Trissou, la Grande Trissou de 2022, vous savez déjà qui ça sera.
Je me suis concentré sur l'essentiel de pouvoir organiser cette édition. Donc en fait, c'est un chapitre que je n'ai pas encore abordé. Je vous dois l'aveu, en fait. Voilà. Mais je viendrai vous dire quand ce sera le cas.
Très bien, merci Philippe Duvanel, directeur artistique de Delémont BD. Merci d'être venu en direct dans nos studios pour faire le bilan de cette 7e édition du festival. Belle soirée à vous.
Merci à vous Thomas, bonne soirée.
Et la fête de Delémont BD est donc terminée, mais les expositions temporaires en plein air resteront visibles encore jusqu'au 11 juillet. Le ciel de la région était agité cet après-midi. Des orages parfois violents ont balayé la région. Les intempéries ont surtout touché la Joye et les Franches-Montagnes. Selon la police cantonale, une demi-douzaine de caves ont été inondées. Deux routes ont également été coupées en Haute-Ajoie à cause de la chute d'arbres, mais la situation a rapidement pu être résolue. Les orages, qui ont été plus conséquents par contre ailleurs en Suisse, la région de Fribourg a subi des vents de plus de 110 km/h cet après-midi. Des grêlons de plusieurs centimètres sont tombés ainsi que d'importantes précipitations. Et cette embardée impressionnante mais sans gravité à Crémine, une voiture a terminé sa course sur le toit cet après-midi à la hauteur du hangar des pompiers. Selon les premiers éléments fournis par la police cantonale bernoise, le véhicule qui circulait sur la Grand Rue direction Gensbrunnen a dévié de sa trajectoire pour une raison inconnue. Il a alors heurté le bord de la chaussée avant de percuter un arbre. Sous le choc, la voiture s'est retournée sur le toit. Le conducteur et sa passagère ont été légèrement blessés et emmenés à l'hôpital en ambulance. 6 nouvelles créations culturelles verront le jour grâce au soutien de Forum Culture, l'institution qui promeut l'offre culturelle dans le Jura bernois, et le Jura a dévoilé cette semaine ses nouvelles coproductions. Au total, 6 projets ancrés dans le canton du Jura et à Bienne vont pouvoir se concrétiser grâce au soutien de Forum Culture. Chaque année, un montant est attribué à cette cause. Les explications de Lionel Gaffner, coordinateur culturel au Forum Culture.
Les dernières années, on avait chaque fois une enveloppe générale pour la commission création, mais qui ne concerne pas que les coproductions, de 130 000 francs. Et là, cette année, on a une enveloppe uniquement pour les coproductions, 98 000 francs. On a un certain montant pour l'accompagnement administratif. Donc on mandate des personnes spécialisées dans l'accompagnement de compagnie, l'administration de compagnie, etc. pour accompagner ces structures. On a aussi toute une enveloppe qui est destinée à l'aide à la diffusion, qui vient, elle, si on veut compenser le risque que prennent les programmateurs et programmatrices du territoire en programmant des spectacles en préachat, c'est-à-dire sans les avoir vus, etc. Donc en fait, là, on essaye de favoriser à travers cette enveloppe-là la diffusion des spectacles coproduits. Et ça, c'est des montants qui sont ensuite distribués aux programmateurs, aux programmatrices, qui couvrent jusqu'à 50% du cachet.
Et vous retrouverez plus de détails sur les projets soutenus, notamment celui de la jurassienne Laurence Maître sur notre site internet.
Sport.
Le point sport, c'est avec vous, Loïc Jourgi. On va prendre des nouvelles du côté de la Prévôté.
Et oui, le FC Mouty assure son maintien. Les footballeurs de 2e Ligue interrégionale ont partagé l'enjeu avec la réserve de Thun 2-2 cet après-midi. Avec ce match nul, le FCM prend 4 longueurs d'avance sur la barre alors qu'il ne reste plus qu'un match à jouer. Grégoire Saucy réalise un week-end parfait. Le pilote Swadesh s'est imposé sur ses 2 courses à Zandvoort aux Pays-Bas. Ces 2 manches comptent pour le championnat européen de Formule 3 régionale. A noter que Grégoire Saucy s'était lancé lors des 2 courses en pole position. Et du côté de la Formule 1, on était au Castellet où Max Verstappen a coiffé Lewis Hamilton au poteau. La Red Bull du Néerlandais a devancé la Mercedes du Britannique de près de 3 secondes aujourd'hui lors du Grand Prix de France. Le podium est complété par un autre de chez Red Bull, Sergio Perez. David Erhard se hisse dans le top 3. Le Jurassien a pris la 3e place dans sa catégorie au Rallye des Bornes en France ce week-end au terme des 11 spéciales. Le franc-montagnard lutte au championnat de Suisse junior des rallyes. Il a terminé à 1 minute et 21 secondes du vainqueur neuchâtelois Jérémy Tödli. De son côté, l'autre régional engagé lui aussi dans cette catégorie, le prévotois Sacha Althaus, a été contraint à l'abandon lors de la dernière spéciale pour des raisons mécaniques. En MotoGP, Marc Marquez s'est adjugé son premier Grand Prix depuis 2019. L'Espagnol a remporté le Grand Prix d'Allemagne dimanche. Il a devancé le Portugais Miguel Oliveira et le Français Fabio Quartararo. En Moto2, la victoire est revenue à l'Australien Rémi Gardner, alors que le Suisse Thomas Lutti n'a pas marqué de points. Et en Moto3, c'est l'Espagnol Pedro Acosta qui a mis tout le monde d'accord. Victor Benaro brille une nouvelle fois. Quelques mois après son titre de champion suisse sur piste, le jeune cycliste jurassien a pris la 2e place du championnat suisse sur route cadet qui se déroulait à Knutville ce week-end. Il a été devancé par le coureur de Bulle Alexandre Baroumi après 72 km d'effort.
Le journal de l'euro, sur le terrain de la mobilité responsable avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier.
Volkswagen.
La Suisse a le regard tourné vers Bakou. L'équipe nationale affronte en ce moment même la Turquie à l'Euro 2020 de football. Cet ultime match de poule représente le dernier espoir de qualification de la Nati pour les huitièmes de finale de la compétition. Le coup d'envoi de cette partie a été donné il y a quelques minutes à 18h. Et retour sur ce début de match et sur les enjeux de cette rencontre avec vous, Loïc Georgi.
Et oui Thomas, et cette rencontre décisive, elle a même déjà bien été lancée puisqu'on joue depuis un peu moins de 10 minutes maintenant. Et malgré une entame turque assez forte, avec une pression assez conséquente sur la défense suisse, c'est finalement Aris Seferovic qui a pu ouvrir la marque d'un superbe but après seulement 7 minutes de jeu. Et rappelons que la Nati se trouve dans une situation critique dans ce groupe A, avec un point au compteur après un nul face au Pays de Galles et une lourde défaite face à l'Italie. La formation helvétique se doit de remporter ce duel pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale et ne pas être éliminé. L'entraîneur de l'équipe de Suisse a notamment expliqué qu'il fallait oublier les déceptions passées, se concentrer sur l'objectif et faire abstraction de tout le reste. Mais rien ne sera facile face à des Turcs qui, après deux défaites dans ce groupe A, veulent à coup sûr démontrer une réaction d'orgueil ce soir à Bakou.
Et pour tenter de l'emporter ce soir, le sélectionneur de l'équipe de Suisse a quelque peu remanié ses troupes, Loïc.
Et effectivement, des modifications, oui, mais qui restent quand même tout de même légères. Vladimir Petkovic a effectué deux changements par rapport aux deux premiers matchs de cet Euro 2020. Il s'agit de Sylvain Widmer et Steven Zuber qui sont titularisés ce soir contre la Turquie. Sylvain Widmer remplace Kevin Mbabou sur le flanc droit. Quant à Steven Zuber, il occupe le flanc gauche. Ricardo Rodriguez recule en défense centrale aux côtés de Nico Elvedi et de Manuel Akanji. Et c'est Fabian Cech qui sort ainsi du 11 de base. Aris Seferovic, le buteur d'ailleurs, Xherdan Shaqiri et Remo Freuler, eux, ont conservé la confiance du sélectionneur.
Reste que même en cas de victoire de la Nati ce soir, plusieurs scénarios sont encore possibles, Loïc.
Et absolument Thomas, seule certitude à l'horizon, si la Suisse s'impose ce soir à Bakou, elle comptera 4 points au terme des phases de groupe de cet Euro 2020 de football. Mais une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition ne serait pas garantie pour autant pour la Nati. Il faudra attendre le résultat de tous les autres groupes, soit jusqu'à mercredi prochain, pour connaître avec exactitude le nom des fameux 4 meilleurs troisièmes qui poursuivront l'aventure. Et dans ce cas, le goal average pourrait avoir toute son importance. Dernier cas de figure le plus optimiste, si la Suisse s'impose largement face à la Turquie et que, dans le même temps, le Pays de Galles s'incline lourdement face à l'Italie, alors les Helvètes pourraient accrocher la deuxième place du groupe, synonyme de ticket direct pour les huitièmes de finale.
Merci Loïc pour ces précisions. Nous analyserons plus précisément cette partie demain dans la matinale à 7h20 avec notre invité Vincent Ducommun. Et pour l'instant, après 12 minutes de jeu dans ce match entre la Suisse et la Turquie, c'est toujours 1-0 en faveur de la Suisse. Les deux autres équipes de ce groupe A jouent également en ce moment. L'Italie affronte les Pays de Galles à Rome et c'est toujours 0-0 après 12 minutes de jeu. Une rencontre qui pourrait s'avérer importante pour la Suisse en cas de succès des Azzurri. Et pour le moment, je l'ai dit, c'est 0-0 en faveur de personnes, ni de l'Italie, ni du Pays de Galles.
Le journal de l'Euro, sur le terrain de la mobilité responsable, avec la nouvelle Volkswagen ID.4 100% électrique, à découvrir au garage Maurice Montavon à Develier. Volkswagen.
Le ciel pourrait être agité ce soir et cette nuit, des orages pourraient encore éclater sur la région. Avec des fortes rafales de vent et de la grêle par endroits, le reste de la semaine sera également pluvieux. Le mercure, lui, perdra quelques degrés au fil des jours. Très belle soirée.